midi 30, mercredi et samedi. C'est la chronique d'Astrid Bouygues qui vous met en bouche et vous régale les papilles. C'est l'heure du déjeuner, alors surtout ne vous arrêtez pas de manger en l'écoutant.
L'art à toutes les sauces. La chronique qui ne retient que la part comestible de la culture.
Je l'avais repéré tout de suite sur la table d'un stand du Salon de la Revue, ce grand format à la couverture bleu nuit qui portait simplement en son centre un œuf tout blanc. Je m'étais approchée et avais appris de la bouche d'Anna Broujean, qui l'a fondée à l'automne 2015 et en dirige la publication, qu'il s'agissait là du tout premier numéro d'une revue indépendante paraissant une fois par an, la revue Club Sandwich. Club Sandwich, m'avait-elle expliqué, se situe à mi-chemin entre le magazine et le book, c'est une sorte d'anthologie. Des articles de fond convoquant l'histoire, la sociologie, l'anthropologie ou l'économie y côtoient la création contemporaine. Et surtout, chaque numéro correspond à un aliment qui va être examiné sous toutes les coutures, à commencer par les plus improbables. Le premier numéro portait donc sur l'œuf. Je me souviens que je l'avais trouvé prometteur, nourrissant et drôlement plein. Je m'étais dit « normal pour un œuf ». Quand est venu l'année suivante le numéro sur le champignon, je l'avais trouvé surprenant, plein de fantaisie, de bizarrerie même, totalement délirant pour tout dire. Je m'étais dit « normal, ça peut être gravement hallucinogène les champignons ». C'est normal pourquoi, avec le troisième numéro sorti cet été et qui porte sur le cornichon. Soulevons la couverture. On va laisser tomber pour la normalité. Avec la revue Club Sandwich, il n'y a rien de normal. Tout est trop, c'est une marque de fabrique. Mais ce n'est pas forcément un défaut. La première chose qui frappe, c'est la beauté de l'objet. La débauche de couleurs, la qualité de l'impression, la somptuosité des innombrables reproductions d'œuvres d'art, l'inventivité de la maquette, l'audace de l'ensemble. À commencer par une audace économique. Club Sandwich réussit en effet le tour de force d'offrir 144 superbes pages pour seulement 19 euros. Ce qui séduit ensuite, c'est la solidité et l'originalité du contenu. Article pointu, mais sujet décalé garanti. Ajoutez une pincée d'esprit potache et vous aurez un panorama intelligent, jamais académique, brossé avec humour et légèreté de la façon dont un aliment s'insère dans le tissu culturel. Dans les articles cornichonesques signés Anna Broujean, Leila Boutaham, Marissa Reva et Guillaume Venetite, l'histoire des techniques de conservation croise celle des techniques de vente. On se concentre sur l'évolution du bocal, depuis l'invention en 1795 par le confiseur parisien Nicolas Appert du fameux procédé alliant étanchéité et traitement thermique. Ou sur la façon dont le Pins cornichon de Heinz devint l'outil de promotion le plus couronné de succès de l'histoire du marketing américain. On analyse très finement le changement de statut que la chute du mur a fait subir au cornichon de Spreewald, passé de Buchware, denrée rare et recherchée dans l'Allemagne de l'Est, qui pourtant le produisait, à emblème d'un temps révolu pour les nostalgiques de la RDA, avant qu'il ne se fasse une place dans l'économie capitaliste. On nous emmène de là à Saint-Charles, petite ville située à une soixantaine de kilomètres de Chicago, devenue capitale mondiale du cornichon dans les années 60 par la volonté de William Moore, surnommé Bill the Deal, qui fit preuve d'une folle inventivité pour le promouvoir jusqu'à l'absurde. Dans ces petites histoires, on croise, bien sûr, la grande. Et on voit se dessiner, l'air de rien, une géographie du cornichon. Mais le numéro fait aussi la part belle au corps et à ses mécanismes, et plus belle encore aux croyances liées au corps. Tour à tour remède miraculeux contre la gueule de bois, envie irrépressible de femme enceinte ou potion magique pour athlète, le pot de cornichon est entouré de superstitions, parmi lesquelles figure en bonne place l'interdit auquel sont soumises les femmes qui en Inde n'ont pas le droit de l'approcher pendant leur menstruation. Elles risqueraient de le faire tourner. Du vinaigre qui bloque simplement la putréfaction aux ferments, créateurs de nouveaux nutriments, on fait un point biologique sur les différents procédés de conservation, un point existentiel aussi, replaçant l'idée même de conserve entre l'angoisse à l'état pur et le pari sur l'avenir. Et on admire comment l'homme, faisant comme toujours de nécessité œuvre, transforme les morsures de la faim en occasion de plaisir gustatif. L'autre plan sur lequel la revue excelle, c'est sa capacité à donner carte blanche aux artistes pour qu'ils revisitent, repensent, imaginent, déconstruisent, reconstruisent l'aliment qui est au centre du numéro ou simplement l'intègrent à leur univers. Photos, peintures, collages, installations, dessins, BD, tous les supports, toutes les inspirations se bousculent dans ce numéro sur le cornichon auquel pas loin d'une cinquantaine d'artistes a contribué. C'est acidulé, c'est kitsch, souvent à la limite assumé de ce qu'il est convenu d'appeler le bon goût, en tout cas résolument non conformiste, et ça fait du bien. Les images, qui ne sont en aucun cas des illustrations, entretiennent des dialogues passionnants avec les textes. Démonstration. On découvre au cœur du numéro la photo d'une étrange sculpture de Jessica Lajar. Elle représente un immense cornichon, vert comme il se doit, et arborant, comme il ne se doit pas forcément, de superbes mamelles roses. Le long du cornichon coulent des gouttes blanches, du lait sans doute, mais chaque goutte est agrémentée d'un point rose, une sorte de téton, ce qui semble affubler ce grand corps d'une multitude de petits nichons. Mais c'est bien sûr un cornichon! On boira dès lors du petit lait en lisant ailleurs dans le numéro que les cornichons d'Europe de l'Est sont lacto-fermentés, même si cela n'a aucun rapport avec le lactose. On en boira plus encore en constatant que dans ses brèves, le numéro mentionne, même s'il la présente de travers, la contrainte oulipienne dite du cornichon, qui consiste à choisir des mots dont les deux moitiés présentent un même rapport sémantique, par exemple le tout et la partie, corps, nichon. Et à composer un texte à partir de ces mots. Mordillons et léchons, nichons dans tous les coins notre langue pointue comme les deux bouts du cornichon. Ce corps nichon vient utilement compenser la dimension phallique du cucurbitacé. Avouez que c'était le moment idéal pour placer ce mot. Dimension tellement évidente qu'elle ne laisse pas de conférer une certaine ambiguïté aux gouttes blanches sur la sculpture de Jessica Lajar. On la retrouve un peu partout dans le numéro, cette dimension phallique. Dans le cornichon en couleur qui remplace sur une photo sépia la Harley Davidson chevauchée par un couple, œuvre de Laurent de Dunf. Dans ces baigneuses et baigneurs qui caressent et enlacent un cornichon géant devant lequel ils semblent en admiration sur les tableaux de CP. Et, bien sûr, sur les clichés photographiques de vieilles campagnes publicitaires dans lesquelles des pin-up courvêtus manipulent d'énormes cornichons en carton-pâte ou se laissent prendre en stop par un homme au volant d'une décapotable. Un homme costumé en cornichon. Au corps nichon ou corps phallus, ajoutons enfin le corps cornichon, le corps de l'homme ou de la femme tout entier cornichon. Le numéro contient ainsi quelques chimères. Avec son pickle comédian, Ben Will crée un homme cornichon, un homme dont la tête, verdissant au fur et à mesure qu'elle s'allonge, prend la forme d'un cornichon, autre façon sans doute d'avoir le melon. Charlie Roberts dessine une maman cornichon se promenant dans la rue en tenant par la main de petits cornichons. C'est la famille Pickles, bien sûr. Mais cette anthropomorphisation du cornichon n'est jamais aussi intéressante que quand elle nous rappelle, paradoxalement, que nous sommes faits de chair et, partant, comestibles. Chez Annie Collinge et Rottingdean Bazar, une femme tasse son corps agenouillé derrière la vitre d'un bocal au reflet vert. Chez Alex Gamsou Jenkins, un cornichon géant tire d'un bocal un petit homme rose tout dégoulinant, du prêt à croquer. Quant à la photo de Ray Rocklin, qui montre un homme dans un costume de cornichon debout sur une assiette, elle joue indubitablement sur l'expression « I'm in a pickle », c'est-à-dire « je suis mal barrée ». Quand j'étais petite, mon père me demandait parfois de me lever de table et d'aller chercher le bocal qui contenait mes nombreux frères et sœurs. J'adorais ça. J'adorais les cornichons, mais aussi, allez comprendre, j'adorais cette blague de mon père. Je me revois m'exécuter gaiement et ouvrir le placard de bois blanc où ma grand-mère, à la campagne, rangeait ses bocaux. Les cornichons, pour moi, c'est associé aux vacances. Au piquant, oui, mais pas à l'acide, à la bonne humeur. Au petit truc en plus qui vient égayer le plat quotidien. Le numéro de Club Sandwich, avec sa loufoquerie sérieuse, m'a restitué ces instants-là. Et maintenant, je reprendrai bien un peu de pâté avec mes cornichons, moi.
C'était la chronique d'Astrid Bouygues, l'art à toutes les sauces, à retrouver tous les mercredis et samedis à 12h30 et en podcast.